tourelle avec poêle en bois, avec un jardin. C'est un très, très bon bistrot de spécialité libanaise et alsacienne. Je vous le recommande aussi. L'ancienne brasserie Perle. D'ailleurs, en plus, la rue s'appelle Perle, elle n'existait pas à l'époque. La brasserie existait donc. Elle est donc qui s'étendait de Kiri, qui est là, hein, à votre gauche, jusqu'aux premières maisons là-bas, hein, encadrée par l'arrière de la brasserie Schützenberger et la route de Bischwiller. Tout ce terrain sur lequel est bâti ce misérable bâtiment fermé des télécoms. Hein. Donc tout ce terrain, là-dessus, ces bâtiments n'existaient pas. Et c'est donc l'ancienne brasserie Perle. Aussi Perle, c'est une brasserie de Strasbourg. C'est installé à Schiltigheim en 1876. C'est l'ancienne ville de Vienne qui existait, place d'Austerlitz à Strasbourg. Hein. L'auberge existe toujours, moi je crois que le nom a changé. La ville de Vienne, place d'Austerlitz, rachetée par Pierre Eiffel en 1876, qui s'installe ici aussi après avoir acheté notre microbrasserie à la Tête Noire à Schiltigheim. Voilà. Et cette brasserie est reprise par le très célèbre Charles Kleinknecht, que certains se rappellent encore du nom, Charles Kleinknecht, donc en 1919. Qui malheureusement la cédé au groupe Albra. Je vous explique le groupe Albra, alsacienne de brasserie, qui s'est mis en place en 1969. Dans les années 60, la brasserie est en crise, on boit beaucoup moins de bière, il y a la crise de la bière, et pour tenir le coup, un certain nombre de brasseries décident de s'unir pour former l'alsacienne de brasserie, en l'occurrence avec la Perle, avec l'Espérance, aujourd'hui Heineken, avec la brasserie de Mutzig, et avec Colmar Pils. Ces quatre brasseries, donc, sous le nom d'Albra, vont tenir le coup. Malheureusement, Heineken a fait une OPA, donc a fait une prise d'action sur Espérance, a fait une OPA sur l'Espérance, et donc du patron d'Espérance. Donc Heineken rentre dans Albra, et qu'est-ce qu'il va faire Heineken? C'est le grand méchant loup, il va bouffer tous les autres, et il va les fermer, tout simplement. Donc, Heineken ferme Perle. Perle, je ne sais plus, en... Oui, il n'y a pas longtemps, donc, oui, en... Attendez, j'ai ça ici. En 1974. Hein. L'OPA se fait en 1972, et Perle est fermée en 1974, et l'Albra s'effondre. Mutzig Pils, qui faisait partie aussi de l'Espérance, va être fermé aussi par Heineken. Colmar Pils aussi est fermé.
Pour la petite histoire, ils ont fermé Perle sous le prétexte qu'ils avaient un champignon dans les caves.
Ah oui. Oui, il y avait des champignons qu'on cultivait à côté, mais bon, c'était...
Il y a toujours de la Perle. On peut toujours boire la Perle.
Oui, alors il y a quelqu'un, un jeune homme, qui relance. Ouais. Comment oui.
Question.
Oui, vous pouvez dire un mot? Oui. 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 Voilà. Et donc, il fait de la Perle en bouteille, hein, ouais, qu'il distribue un peu partout.
Même en pression aux 12 apôtres.
En pression,
en pression aux 12 apôtres.
12 apôtres à Strasbourg, en pression. Ah, magnifique.
Mais peut-être que ce n'est pas perdu et qu'avec la restructuration de tout cet espace-là, il y aura de nouveau des possibilités plus favorables pour des brasseurs qui veulent s'installer de nouveau à Schiltigheim. Je pense qu'on va on va favoriser cette implantation. Et c'est un peu un des objectifs de cette zone d'aménagement concerté qui existe, qui est en train de se créer quand on part d'ici et qui va jusqu'à la route du Général de Gaulle, donc sur 12 hectares à peu près. Donc voilà, et c'est, le thème de la bière va rester un thème important. Et il y a moyen, il y a des locaux, il y a de la place pour imaginer plein de choses. S'il y a des gens intéressés, c'est le moment de se manifester par rapport à ça.
Même la patronne, Marie-Lorraine Muller, m'a dit, là, au moment de la fête de la bière, qu'à côté, elle veut réinstaller un certain nombre de choses, dont une brasserie.
Oui, oui, oui.
Mais elle fabrique déjà sa bière ailleurs. Oui.
La bière
oui.
existe. Hein,
mais ici, à nouveau.
Oui, oui.
Bon, ouais, à voir.
C'est pas facile de refaire une brasserie industrielle en centre-ville, ça, par contre. Des petites brasseries, c'est possible.
Oui, mais quand je lui ai dit mini-brasserie, elle dit non, non, pas une mini, une brasserie.
Oui. Très bien, très bien. Alors, Perle est aussi très connue parce qu'en 1939, elle avait la plus forte production de bière en fût, hein, ce qui est important. Alors aussi, pour ceux qui se rappellent, après la guerre, Perle était connue parce que c'est Perle qui a fait les premières limonades colorées, la fameuse Perle aux fruits, orange, citron, hein, avec des bulles. Et les enfants, nous, de l'époque, on découvrait ça, c'était quelque chose de très beau, d'aller boire la Perle aux fruits. Aujourd'hui, voilà c'est, tout ça, c'est des images d'autrefois. Voilà, donc sur la Perle aux fruits, écoutez, moi, je vais pratiquement arrêter mon histoire à moi, là, cette visite. Je vous rappelle que, Patrick, vous attendez encore la Maison des Sociétés, pour regarder les images. Et je crois que j'ai vu Madame Ladjot à la culture. Est-ce qu'elle est Nathalie? Nathalie va nous dire un mot, ce qui se passe ailleurs aujourd'hui encore.
Plus fort.
On a ouvert la coopérative des Bouchers, qui est une ancienne friche industrielle.
Rue principale.
Une distillerie, puis une coopérative de Bouchers qui a été fermée dans les années 70. Armand y a organisé des biennales de la sculpture.
20 années d'exposition.
Voilà. Il y a eu des semaines de la jeune création aussi. Ça a été fermé dans les années 2002-2003 pour des raisons de sécurité. Depuis 2009, on travaille sur la réhabilitation de ce lieu en centre d'art, d'art contemporain. Donc les travaux vont débuter en janvier 2014. Là, on est sur les consultations de marché. Et puis, c'est ouvert aujourd'hui et c'était ouvert hier, avec un collectif de jeunes architectes et d'artistes pour justement avoir une vision de ce lieu, préfigurer ce qu'il va être, avec plein de choses. Vous verrez, il y a des projections sur de l'éclairage de la grande halle à l'intérieur. Il y a des salles qui sont aménagées avec des arts numériques. Donc allez-y, il y a des concerts. Hier soir, on avait une grande soirée électro. À 18h, c'est un concert plus famille, tout public. Donc venez, c'est ouvert jusqu'à 20h ce soir. Et c'est vraiment l'occasion de voir ce lieu. Le projet d'architecte est aussi présenté dans une des salles. Donc venez, voilà. C'est la dernière fois sans doute qu'on peut le voir en l'état aujourd'hui, avant rénovation, avant réhabilitation. L'année prochaine, on fera sans doute une visite de chantier. Donc ce sera une autre étape. Donc venez, on vous attend. Alors, après le Cheval Blanc, rue principale, vous continuez à gauche, et c'est à droite, c'est bien ouvert. Vous avez des installations déjà dès l'entrée.
C'est en face de l'auberge à l'Imaginaire, qui est une autre auberge qui est très bonne. Et donc c'est la partie de la rue principale à gauche du Cheval Blanc, celle qui va vers Bischheim.
C'est constitué d'une maison alsacienne du 18e, à côté une remise, et puis au fond la grande halle. Voilà.
Et cette grande distillerie, elle est magnifique. Il faut profiter de la voir parce qu'elle a une charpente digne d'une cathédrale. Magnifique. Elle est magnifique.
La photo de la charpente est dans le journal aujourd'hui.
Oui. Oui, tout à fait. Et ce qui est super, c'est de le voir grand ouvert. Et on a vraiment la dimension de la rue dans la halle. C'était une allée traversante, justement, pour charger et décharger. On a vraiment cette dimension-là. Venez, je vous attends.
Et Nathalie, dis-nous un mot sur le Brassin.
Le Brassin,
c'est pas une auberge.
C'est pas une auberge. Le Brassin, c'est situé derrière l'église.
Catholique.
De la Sainte-Famille.
Ancien foyer.
C'était un ancien foyer paroissial qui aussi devait fermer pour des raisons de normes de sécurité. Et donc la ville l'a racheté sous forme de bail amphithéotique et on a réhabilité ce lieu en troisième salle de spectacle qui accueille particulièrement le jeune public, mais où les associations... ont aussi des usages, donc on arrive à allier patrimoine, j'ai envie de dire, patrimoine de cœur, parce que les gens s'y retrouvent, mais aussi voilà, salle de spectacle, donc on a du théâtre et beaucoup de jeunes publics dans cette salle. Ce qui est intéressant dans la réhabilitation, c'est que les architectes ont bien compris notre attachement au lieu, donc il y a une partie qui est complètement nouvelle et on a gardé l'ancienne façade qui fait aujourd'hui partie de l'intérieur, ouverte par l'extension en verre, donc voilà, c'est chouette. Et s'y déroulera le salon d'illustration et du livre de jeunesse le troisième week-end de novembre, donc avec plein d'illustrateurs et plein d'enfants.
Voilà. N'hésitez pas à poser une dernière question, si vous voulez bien.
Juste une question par rapport au bâtiment de Chilic. L'ancienne mairie, qu'est-ce que le devenir de ce bâtiment-là qui trône en plein milieu?
Je peux répondre. Alors l'ancienne mairie est un bâtiment...
Daniel Dambard. Adjoint à l'environnement,
l'urbanisme.
À l'urbanisme.
Alors l'ancienne mairie est un bâtiment effectivement qui est très intéressant sur le plan patrimonial également. Il y a eu plusieurs candidats à la reprise de ce bâtiment, mais c'est extrêmement compliqué. Il y avait à la fois un tribunal qui voulait s'installer, une banque. Le dernier projet, c'est un travail autour d'appart-hôtel. Mais ce qui se passe, il y a un problème lié au stationnement.
Oui.
C'est-à-dire que la surface disponible est intéressante, avec des grands volumes, mais on ne peut pas garer les voitures, il n'y a pas de parking de proximité. Donc on est en train de réfléchir à essayer de trouver une solution pour donner une affectation à ce bâtiment. Ce n'est pas oublié, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé cette solution de parking.
Parce que je vois qu'au niveau de la mairie, il y a la sécurité sociale hein, qui encombre énormément le hall d'accueil, alors qu'on a un bâtiment qui aurait pu servir franchement à cela.
On pourrait visiter une prochaine fois pour nous dire peut-être pour voir le bas. C'est un bâtiment qui est compliqué parce qu'il n'est pas du tout aux normes de sécurité, notamment aux normes
d'évacuation.
Il y a vraiment des fragilités. Il y a eu des problèmes de chauffage, d'infiltration d'eau, etc. Donc il y a en plus.
Il faut le reprendre, il faut en compte. Ce sont des investissements énormes. Or, les frais de fonctionnement seraient considérablement augmentés si nous gardions ce bâtiment.
Il y a de magnifiques vitraux dans cette maison.
Juste une dernière chose par rapport à ce bâtiment. Vous avez mis de jolies fleurs dessus. On a de l'arrosage qui dégouline, ça met beaucoup de moisissures parce qu'il est mal approprié. On a des fenêtres en haut qui sont ouvertes, donc des infiltrations d'eau qui viennent par la pluie.
Je suis d'accord.
Il faudrait que la commune, oui, un peu mieux, c'est-à-dire qu'il y ait au moins des visites à l'intérieur, voir s'il y a des dégradations qui se produisent et à l'extérieur aussi.
Le service technique est censé s'occuper effectivement de la maintenance de ce bâtiment. On leur a signalé le problème.
Je vous rappelle aussi que les élus, quels qu'ils soient, ont besoin de critiques. Et c'est à vous de critiquer, pas d'attendre qu'on soit en stomdèche dans la rue. N'hésitez pas à voir les élus. Alors, écrire et dites ce qui ne va pas. Un élu a besoin de critiques. Parlez bien fort.
C'est pas une critique, on a vu très très bon bâtiment. Y a-t-il les moyens de le protéger, sachant que la ville, d'après ce qu'on a compris, n'a pas nécessairement la capacité d'acheter, bien entendu. Mais y a-t-il les moyens de le protéger en créant, par exemple, des sociétés civiles et des choses comme ça, dans lesquelles les élus, la commune aurait ou la ville aurait effectivement des parts, et le personnel pourrait aussi prendre le temps pour participer à cette protection.
Alors, vous l'avez peut-être entendu, nous sommes en réflexion avec l'aide de la communauté urbaine sur un grand secteur ici, sur 12 hectares, qui englobe 5 sites privés. Jutzin Berger, qui est inscrit au patrimoine, donc depuis sa fermeture...
Façon protégée déjà.
À l'inventaire, oui.
À l'inventaire du patrimoine, il y a le terrain France Télécom, il y a Kiri, il y a Alzia Zebim et il y a les 4 hectares 5 de Fischer. Tout ça vous donne un ensemble de 12 hectares qui est extrêmement important parce que super bien placé par rapport à Strasbourg, par rapport à la gare, par rapport à notre entrée d'île. Et ça fait 2 ans que les réflexions et les études sont faites, payées par la CLUS, en lien avec la ville de Schiltigheim. Et bien sûr qu'on a envie que ce secteur revive dans son ensemble avec un programme... pluriel, à la fois du logement, de l'activité économique, etc. Il y a différentes pistes qui sont intéressantes, le fait qu'il y ait des caves, le fait qu'il y ait un patrimoine assez important, mais il va falloir trouver un montage financier dans lequel nous, ville, évidemment, on a notre part. Voilà.
Alors justement, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire là, c'est un petit peu ce qu'on retrouve comme schéma avec l'accession de location, la cession à la propriété traditionnelle, la fiscalité de l'autre côté. Et moi, la question que je pose, c'est on a vu des bâtiments effectivement très beaux, par exemple celui qui se trouve dans la cour derrière Richer, sur lequel il serait intéressant de dire la ville participe à une hauteur pour avoir la maîtrise sur le devenir, mais le particulier chilicois peut prendre part aussi dans des parts d'acquisition pour pouvoir finalement épauler ça sans rentrer dans la partie strictement construction de business.
Écoutez, c'est une excellente proposition. D'ailleurs, dans le cadre de la ZAC qui n'est pas encore créée, c'est une intention. Elle sera, si tout va bien, créée avant la fin de ce mandat, donc avant mars 2014. Et ensuite, il y a un travail sur les différentes parties de la ZAC, un travail beaucoup plus fouillé et détaillé. Moi, je vous invite, la contribution que vous venez de faire oralement aujourd'hui, je vous invite à peut-être l'envoyer au service de l'urbanisme pour que nous la mettions dans le registre, parce qu'il y a encore un registre aujourd'hui disponible où toute la population, les entreprises, tous les acteurs de la ville et même les non-chilicois qui sont intéressés par le devenir de ce secteur puissent mettre leurs contributions, leurs idées, leur vision des choses, et nous reviendrons vers les chilicois et vers la population dans différentes réunions. Les choses ne font que démarrer et ça va se continuer jusqu'à achèvement des travaux pour chaque endroit et affectation pour chaque endroit. Alors les idées ne manquent pas, maison de patrimoine agricole, refaire une petite place à Schiltigheim. Voilà, il y a plein d'idées, mais tout ça, il va falloir donner une cohérence.
Donc on peut acheter des mètres carrés. On achète des mètres carrés culturels.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire de la ville ensemble. Voilà. Parce que là, on réintègre ces lieux dans de la ville et dans de l'espace vécu, et non pas simplement garder pour certains usages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se réapproprier tous ces espaces.
Est-ce que l'accès par le tramway, ça conditionne un peu la réussite du projet ou pas?
En partie, oui. Effectivement, il y a déjà le tramway à Mendes France, et puis le fait qu'il arrive sur la route des Général de Gaulle, c'est extrêmement intéressant.
Il va donc passer dans Fischer, en principe. Il passe dans Fischer.
Oui. Justement, à ce titre-là, il y a une option à l'étude d'essayer de le faire bifurquer juste à la limite de Fischer, au bout du cimetière,
pour
qu'il touche au plus près.
Mais rappelez-vous que vous êtes quand même pas loin de Strasbourg à pied. Oui. Et à bicyclette.
C'est vrai.
C'est à côté.
C'est vrai.
De toute façon, l'avenir de la communauté urbaine nord passera par le devenir de ces 12 hectares. On en est persuadé.
Et peut-être par le canal de la Marne-Nord.
Et exactement.
Oui, c'est le directeur de VNF local qui vous en
parle. Oui, c'est donc vrai. C'est vrai que déjà le secteur des rues de l'art est inscrit dans la.
Dernier petit clin d'œil, on est dans la rue Perle, donc c'était l'entreprise Perle. Mais très longtemps, cette bande-là appartenait à Schutzenberger et qui avait des hangars jusqu'à la route de Bichelet. Ah, très bien.
Je vous invite maintenant, si vous le voulez, à rejoindre la maison des sociétés Villa Wenger-Valentin, où Patrick peut encore vous commenter et montrer de très belles images des usines, de l'intérieur des usines, que nous n'avons pas vues, malheureusement.
Justement, voilà. Au niveau des usines, vous n'avez pas parlé de la Comessa, vous n'avez pas parlé
de la Syrie. La visite. Oui, bah, c'est la visite ici du Sud. Hein. Je peux vous parler d'autre chose encore, mais pas tout en même temps. Hein.
Il y a beaucoup d'usines à
Oui.